L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est minuit 45, ce lundi 26 juillet 1999. Nous sommes à Rome, non pas en Italie, mais dans le New Jersey, près de la Big Apple. Dans quelques minutes, la tour de contrôle qui surplombe les installations du festival Woodstock 99 va s'effondrer. Une base militaire accueille 350 000 jeunes en quête d'expérience équivalente à celle de leurs parents 30 ans plus tôt. Elle s'embrase. Des incendies, des scènes d'émeutes, la police d'État qui entre en scène, c'est un désastre. Ce festival, qui se voulait paix et amour, entre dans la légende comme son illustre aîné de 1969. Mais celle-ci est plus sombre. Elle représente à elle seule tous les mauvais choix, les erreurs multiples et les provocations aussi inutiles qu'inflammables de l'organisation. En effet, loin d'assumer ses fautes, cette dernière n'a fait qu'attiser les braises. Minuit 45, l'heure H de mon histoire. Quelques heures plus tôt, la grande soirée de clôture du festival a pris un tournant inattendu. Depuis la veille, les festivaliers font face à de nombreux problèmes. Leur colère augmente petit à petit. On leur annonçait l'événement de leur vie, calqué sur le modèle de l'édition de 1969, un temps où l'amour et le partage régnaient en maître. Au lieu de ça, ils ont eu droit à une magnifique fresque du consumérisme américain. La plupart d'entre eux sont prêts à passer l'éponge en prévision de l'ultime concert. Il faut dire que l'organisation leur a annoncé une surprise de taille, annoncée comme magnifique. Jack et sa copine Madison viennent du Minnesota. Ils ont parcouru des centaines et des centaines de kilomètres pour venir faire la fête. Le retour sur investissement est difficile à avaler pour Jack. Lui n'a pas aimé son week-end et, pour ne rien arranger, Madison a subi des tentatives d'attouchement. Rien ne s'est déroulé comme prévu. Pourtant, les amoureux sont restés. Ce soir, un hommage spécial à leur musicien préféré, Jimi Hendrix, aura lieu en fin de nuit. Tout le monde s'attend à y voir de nombreux invités spéciaux. La soirée commence sur les chapeaux de roue. Les Red Hot Chili Peppers chauffent le public à blanc. Le bassiste, le célèbre Flea, est complètement nu, avec juste son instrument pour camoufler ses parties intimes. Il est alors 21h35. Tout se passe bien. Le public est en communion avec l'un des plus grands groupes du monde. La surprise annoncée, elle, arrive. Les organisateurs ont eu la bonne idée de faire passer des bougies à tous les spectateurs en hommage à la fusillade de Columbine. Bientôt, Flea, l'effet salaire, distingue un feu au loin. Il s'agit d'un petit départ d'incendie, un feu de joie, préparé par certains spectateurs avec des morceaux de bois arrachés au décor. À de nombreux endroits, la manœuvre se répète et, vu depuis la scène principale, la situation semble vite devenir hors de contrôle. Le groupe n'a pas été prévenu de cette initiative. Les soldats du feu non plus. Les pompiers n'y sont donc nullement préparés. Il est malheureusement trop tard pour maudire les organisateurs, incompétents possibles depuis 3 jours. Tout s'embrase. Le groupe est contraint de quitter la scène. Les organisateurs, qui semblaient pourtant ravis du week-end lors de la conférence de presse finale de 17h30, demandent au chanteur de revenir sur scène. Il est chargé de calmer la foule qui s'échauffe. Mais rien n'y fait. Il promet de reprendre une fois que les pompiers sont intervenus. Lorsque ces derniers arrivent, des jets de bouteilles plastiques les obligent à rebrousser chemin. Ils doivent attendre les renforts. Jack et Madison se trouvent juste à côté d'un feu de joie. Galvanisés par leur colère et les manquements dont ils sont victimes, ils prêtent main forte aux casseurs. Tout cela commence à prendre une ampleur qu'eux-mêmes ne peuvent maîtriser. Soudain, Flea remonte encore sur scène, appelle au calme, au respect des femmes aussi. « Ben voyons, » pense Jacques. Rien n'a été fait jusqu'ici pour les épargner, justement. Ces jeunes, venus de tous les États-Unis, sont de véritables sauvages, sans respect ni mesure. Finalement, les Red Hot Chili Peppers remontent en piste pour terminer leur set. Involontairement, leur morceau de clôture, à lui seul, participe à étendre le feu comme une traînée de poudre. « Fire » de Jimi Hendrix, en référence à Woodstock 69. Rien que ça. « Merci les gars », pense l'organisation, même si tout le monde table sur une coïncidence. Le concert des Red Hot Chili Peppers se termine et le spectacle hommage au grand Jimmy commence. Pour tous, et pour Jack en particulier, c'est une immense déception. De la musique d'Hendrix dans les haut-parleurs. Des écrans qui s'illuminent avec des images du plus grand guitariste de l'histoire et... c'est tout. Pas d'invités spéciaux, pas de groupe sur scène, rien. Un pauvre et ridicule spectacle, son et lumière. Ah non, c'est trop. Jack et les autres s'insurgent. La guerre est déclarée. Le concert, initialement programmé jusqu'à 23h30, se termine à minuit. Dans le même temps, toutes les radios portatives des services de sécurité s'éteignent. Les organisateurs n'ont payé que pour les jours du festival. Or, nous sommes déjà lundi. Le concert final est celui de Megadeth. Ce groupe de métal interprète des morceaux aux paroles assez noires, loin d'être apaisantes. C'est là aussi un drôle de choix. Les festivaliers ont déjà mis le feu à la base militaire qui les accueille lorsque le groupe entame son dernier morceau, Peace Sells. Le week-end catastrophique s'achève. Devant la scène, des policiers anti-émeutes sont là. Le guitariste du groupe n'en revient pas. Devant lui s'étale horreur et désolation. 12 caravanes sont incendiées. Des véhicules de l'organisation également. Pour ne pas devenir les cibles de violences dans la fournaise, les forces de l'ordre dissimulent leurs badges et uniformes. Ils mettent en place un cordon de sécurité entre la scène et le camping, empêchant ainsi les jeunes qui quittent la zone de retourner au concert. Parmi les centaines de vandales, seulement 7 sont arrêtés. Le promoteur de l'événement, lui, se gausse ironiquement que le festival de Woodstock ait été sauvé par la police. Sur place, la situation continue de dégénérer. Jack et Madison ont réussi à s'extirper de la foule et à revenir au camping. Des tentes brûlent, des voitures aussi. Des pneus éclatent, le caoutchouc vole partout. Les amoureux paniquent, mais retrouvent leur voiture en état de marche. Seul un rétroviseur a fait les frais d'un coup de batte de baseball. Sans réfléchir, Jack passe la première et démarre, intégrant la file gigantesque du convoi allant vers la sortie. Ils rentreront chez eux dans le nord du pays, sains et saufs. Mais plus jamais, ils ne mettront les pieds dans cet état maudit du New Jersey. Ceux qui restent désormais sur la zone du festival sont les vandales et les casseurs. La zone va brûler une bonne partie de la nuit. Les forces de l'ordre, aidées de la police d'État, expulsent enfin les derniers jeunes. Le lendemain matin, le chaos est sans nom. Le temps est gris. Les nuages sont bas. Les fumées qui se dégagent à de multiples endroits donnent à la zone un air de film de post-apocalypse. Partout, des montagnes de déchets volent et collent au goudron. La boue, les geysers surgissant des canalisations, les carcasses de métal. Le spectacle est désespérant. Durant des semaines, des équipes de nettoyage devront intervenir pour redonner à la base militaire son lustre d'antan. Ainsi se termine l'un des plus grands fiascos de l'histoire de l'industrie musicale. Afin de comprendre cet épilogue pour le moins sensationnel, il convient d'en détailler la genèse. Notre histoire commence 18 mois plus tôt. Comme souvent, lorsque des catastrophes se produisent, tout est parti d'une bonne intention. Nous sommes à la fin de l'année 1997. Le producteur de musique américain, Michael Lang, décide, un peu à la surprise générale, de célébrer les 30 ans du festival original de Woodstock. En 1969, il en était déjà l'un des principaux organisateurs. Le festival le plus légendaire de l'histoire de la musique rock dispose d'une aura quasi mystique et d'une réputation qui joue pour lui. Il faut dire que l'événement a touille de légendaire. Les conditions météo, l'utilisation de drogues auraient pu provoquer un fiasco. Il n'en fut rien. Pourtant, ce qui reste comme un moment autant musical qu'historique manqua de provoquer des électrocutions tant les lignes furent saturées et les conditions mauvaises. On a recensé plus de 5000 interventions médicales, dont 800 liées à l'utilisation de drogues. Mais aussi 4 fausses couches, 2 naissances et, moins drôle, 3 morts. L'un est décédé d'une overdose. Un autre, à la suite d'une crise d'appendicite, et enfin, un dernier écrasé par un tracteur alors qu'il dormait. Durant ces 3 jours, à l'aube des 70s, on a pu suivre une programmation jamais égalée ni égalable. Jimi Hendrix, Joe Cocker, John Baez, The Who, Janis Joplin, Johnny Winter et beaucoup d'autres. Le tout devant 500 000 spectateurs et le plus gros bouchon de l'histoire des États-Unis. Et aussi 1 600 000 dollars de pertes remboursés mensuellement jusqu'en 1980. Pas mal, hein? Fort de ce succès légendaire, Lang décide de retenter l'expérience en 1994. Personne n'y croit, personne. Comment serait-ce possible de rivaliser avec l'illustre ancêtre de 1969 ? Eh bien, là encore, le succès est aussi inattendu que l'organisation est héroïque. Les conditions climatiques sont folles, presque intenables. De la boue, encore, partout. Le groupe Green Day en jette même avec amusement sur la foule durant son concert. Seul énorme problème, le lieu choisi ne se prête guère à de bonnes conditions de sécurité et de nombreux resquilleurs enjambent les barrières. Mais l'ambiance, comme globalement 1969, est bon enfant. On rallonge même Mudstock, en référence à la boue, avec un troisième jour de programmation. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs, beaucoup sans ticket donc, viennent écouter une programmation totalement dingue. En plus de Green Day, on y trouve pêle-mêle les Red Hot, déjà, Aerosmith, Joe Cocker, encore, Metallica, Santana, Zucchero, Jimmy Cliff et les Cranberries ou Rage Against the Machine. Les pertes sont là, mais le succès est tel qu'il en appelle un autre. Tous les feux sont au vert pour Lang. La meilleure des pistes est celle de fêter le 30e anniversaire. Les préparatifs démarrent sur les chapeaux de roue. Cette fois, Lang n'est pas seul à l'organisation. Devant le poids des années, l'historique de Woodstock s'appuie sur un homme du nom de John Cher. La première des problématiques, c'est d'éviter que les resquilleurs de 1969 et 1994 puissent à nouveau entrer gratuitement. Les deux dernières éditions, au milieu de la nature et des champs, véhiculaient un climat hippie et positif. À trop vouloir optimiser la rentabilité financière, les deux hommes vont tuer le charme même du concept. En 1994, la base militaire de Rome, dans le New Jersey, ferme ses portes. Les 6500 employés sont mutés ailleurs et la ville se meurt à petit feu et à coups de déménagement. Le maire de la ville est bien entendu enchanté quand les deux organisateurs lui soumettent leur projet, qu'il accepte sans broncher. Qu'est l'opportunité pour le tourisme, pour le moral de la population que ce festival Woodstock 99. La base a été choisie par les équipes d'organisation pour plusieurs raisons. D'abord, elle est loin des habitations. Elle est dotée de grandes infrastructures et de scènes, ce qui, d'office, est bienvenu pour limiter les coûts. De plus, les riverains très éloignés ne seront pas dérangés par les murs d'ampli et les vagues de décibels. Et enfin, pour limiter les resquilleurs, quelle aubaine que les limites strictes et les hauts grillages de l'armée. Le mur de la paix, couvert de fresques, érigé par les organisateurs, n'est qu'une illusion de pacification. Son objectif premier, c'est de limiter les entrants sans ticket. À l'annonce du lieu, Lang est critiqué pour son manque de sensibilité aux valeurs du mouvement. Il rétorque que les cadres de l'armée font partie de la même génération et que donc, ils y sont sensibles. Ou comment noyer le poisson en une leçon. Comme un mauvais présage, le maire provoque un premier tollé lorsqu'on apprend que la base est classée parmi les lieux « Superfound ». Donc contaminé par des déchets toxiques les années précédentes. Mais le projet, lui, continue. La base militaire, gigantesque, offre de nombreuses possibilités. Deux grandes scènes, séparées d'un peu plus d'un kilomètre, forment le cœur de la zone dévolue aux festivaliers. Des scènes secondaires sont également installées. Un ancien hangar à avions servira, lui, à produire des groupes émergents pendant la journée. Il hébergera une rave party la nuit. On trouve une tente géante de l'armée et on la monte. On y installera des ordinateurs afin de permettre aux gens d'envoyer des emails à leur famille. Parmi les nombreuses autres attractions, on prévoit un stand où se trouvent des moines bouddhistes ou une aire de BMX. Le parking principal ne peut accueillir que 60 000 véhicules, mais une zone adjacente permet d'en prévoir 65 000 de plus, au cas où. les premières difficultés se présentent. Le conseil municipal de Rome commence à s'interroger sur la disponibilité des infrastructures, sur l'organisation du festival aussi. Le département de la santé met en exergue le problème de l'absence de plan de circulation. Les canalisations d'eau semblent poser problème. Elles ne sont ni assez protégées, ni dans un état optimal. Au sein même du comité d'organisation, un membre sera étrangement écarté après s'être inquiété du nombre trop peu élevé d'accès à l'eau et du manque d'ombre. De la même façon, 14 distributeurs de billets sont prévus. C'est bien trop peu. On installe également un parc à bière ou Biergarten, mais sans jamais contrôler l'âge des festivaliers qui y accèdent. La programmation musicale, elle, est une vraie question. Bien entendu, la plupart des groupes à l'affiche sont populaires parmi les jeunes. D'ailleurs, sur les 250 000 tickets mis en vente, 225 000 sont vendus rapidement. Alors que pour les précédentes éditions, des musiciens bien ancrés dans la vibe paix et amour dominaient, c'est plus tellement le cas en 99. Sheryl Crow, Alanis Morissette, Jamiroquai, James Brown ou les Red Hot peuvent faire illusion, certes. Mais Rage Against the Machine, Korn, Creed, Limp Bizkit ou Megadeth sont des groupes beaucoup moins peace and love. Non pas que la musique métal soit une musique malsaine, loin de moi cette idée, mais vous en conviendrez, elle est assez éloignée de l'atmosphère originale de ce que Woodstock représente. Il en est de même pour son public. De nombreux autres artistes, moins connus et moins populaires, sont également invités. La cohérence musicale n'est pas réfléchie. Le métal côtoyant les DJ au son assez rock. Tout groupe ou artiste jouant de près ou de loin du rock a été convié à participer. Et de manière ironique, un musicien dira après l'événement « On aurait dit qu'ils ont contacté tous les agents de tous les groupes qu'on pouvait entendre sur les radios alternatives. » Comme vous l'entendez, les critiques fusent de toutes parts et le festival n'a même pas démarré. Cela n'augure rien de bon. À 24 heures de l'arrivée des premiers festivaliers, les derniers doutes s'installent.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons l'heure H d'un festival dont la réputation légendaire traversa les années. Woodstock. Il ne s'agit pas ici de la première édition de 1969, mais bien de l'édition anniversaire de 1999. Elle se tiendra bientôt dans le New Jersey. Mais les choix fondamentaux de l'organisation sont des plus discutés. Le choix du lieu, une base militaire, interroge. Cela permet d'éviter les resquilleurs, certes, mais à quel prix ? Celui de perdre l'essence même de Woodstock. Quant à la programmation, elle semble avoir été constituée sans réelle cohérence, si ce n'est le fait que les groupes attendus jouent du rock, dans toutes ses formes et toutes ses saveurs. À la veille de l'arrivée des festivaliers, la dernière réunion d'organisation ne va pas se passer comme prévu. L'équipe en place, ce jeudi 22 juillet 1999, se gausse du succès à venir. Aucune ombre au tableau ne semble planer. Certains d'entre eux, cependant, sont plus éveillés. L'un tente de prendre la parole et énonce les informations dont il dispose. On attend 225 000 festivaliers. Pour les encadrer, 12 000 personnes font partie du personnel. Parmi eux, 10 000 sont là pour la sécurité et 1 200 sont des participants mis à disposition de l'organisation. D'ailleurs, les agents de sécurité sont arrivés ce matin. Ils ont suivi une simple formation de 3 heures seulement, dont 2 consacrées à remplir un questionnaire gigantesque. Bref, il suffit de savoir écrire pour obtenir le poste. 500 policiers d'État et municipaux sont là pour les encadrer. C'est beaucoup trop peu, selon le jeune homme, qui tente d'ouvrir les yeux des autres membres de l'équipe. Déjà, il anticipe des catastrophes à venir. Mais voilà, il n'est pas écouté. Tant il a pourtant vu des centaines de faux tickets qui déjà affluent. À 150 $ le ticket, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Dès le vendredi, les événements lui donnent raison. Au lieu des 225 000 personnes programmées, les spectateurs, majoritairement jeunes, blancs, masculins, débarquent à 350 000. C'est la queue. Les soucis de sécurité entrevus lors de la réunion du matin se confirment. On le découvre dès le jeudi soir, avec l'ouverture des scènes secondaires. Le personnel, peu scrupuleux, accapare les boissons, la nourriture et les chaises pliantes mises à disposition des festivaliers. Pire encore, ils n'hésitent pas à les revendre à d'autres ou enlèvent leur uniforme de staff une fois entrés sur les lieux afin de profiter du festival. Trop peu de personnes sont affectées à la surveillance des portes d'entrée. Certains, mécontents de leur logement insalubre, arrachent les parois et crient leur mécontentement. Ils dorment sur des matelas gonflables, doivent payer leur eau. Plus concrètement, ceux qui sont chargés de sécuriser la foule lors des concerts ne peuvent accéder au plus près de la scène. La foule, trop dense, sous-estimée par les organisateurs, empêche tout mouvement. À l'ouverture du festival le vendredi matin, l'organisation, des œillères près des yeux, est très loin d'anticiper la suite des événements. Certes, il revendique l'esprit peace and love d'un mouvement né durant la guerre du Vietnam. Mais l'évolution des mentalités et le profil des festivaliers, sans compter les nombreuses failles, vont les conduire droit dans le mur, à pleine vitesse. Pour ne rien arranger, si les conditions climatiques sont bonnes, la chaleur est néanmoins étouffante le vendredi matin. Jack et Madison, embarqués dans leur pick-up Chevrolet des années 80, sont au milieu des embouteillages depuis 2 heures. Tout près, et pourtant si loin. Ils ne seront jamais à temps pour l'ouverture. Dans la nuit, les organisateurs ont décidé de suspendre la vente des tickets, mais sans en avertir les festivaliers. Dans la région, les embouteillages ne sont pas sans rappeler ceux de la première édition de 1969. Si de nombreux jeunes affluent déjà sur les stands, beaucoup suffoquent dans leurs voitures surchauffées. Nos deux jeunes du nord du pays ne sont pas seuls dans cette galère. Les journalistes de MTV, qui ont acheté les droits de l'événement, arrivent sur place peu de temps avant l'ouverture officielle. Carson Daly, présentateur vedette de la chaîne, est déjà la cible des jeunes participants. Outre les remarques et les quolibets, on lui jette entre autres des bouteilles en plastique et des boîtes de céréales. En coulisses, James Brown, superstar musical, a déjà 20 minutes de retard. Les ingénieurs sont furax. Le public s'impatiente. Le musicien refuse de monter sur scène pour une raison des plus improbables. Il demande une augmentation de 40% et le versement de son cachet avant la première note. Au pied du mur, les organisateurs n'ont d'autre choix que d'accepter. Enfin, les premières mesures du festival sont jouées devant une foule en délire. Jamiroquai et Sheryl Crow suivent. L'accueil pour cette dernière est des plus particuliers. La foule lui demande d'enlever son haut et de montrer ses seins. Outrée, elle répond micro ouvert que le prix à payer pour ça sera bien plus élevé que le ticket d'entrée. Cette ambiance malsaine se poursuit tout au long de la soirée du vendredi. Lors du show d'Offspring, le chanteur, témoin de scènes d'agression sexuelle dans la foule, n'hésite pas à stopper le concert. Korn est le groupe suivant. Les musiciens, étouffés par la chaleur, fournissent néanmoins une performance extraordinaire. Le leader du groupe est victime d'un malaise juste après le concert et sera placé sous assistance respiratoire. C'est ce moment que choisit un groupe d'une centaine de festivaliers, certainement sous influence de drogue, pour renverser des poubelles de métal et faire un maximum de bruit. Ils ne vont pas s'arrêter de tout le week-end. Durant la rave partie du soir, Moby s'en plaint. Le samedi matin, la chaleur n'a pas diminué. À midi, déjà 700 personnes ont été prises en charge pour des soins liés à la déshydratation et aux effets de la chaleur. Le coupable principal ? Le béton qui recouvre la base militaire. La verdure des festivals permet habituellement d'absorber la chaleur, mais comment l'imaginer dans ce royaume d'asphalte ? C'est tout bonnement impossible. Les températures oscillent entre 34 et 39 degrés, et les rayons du soleil qui se réverbèrent au sol rendent l'accès au concert dangereux. Nombre de festivaliers n'ont pas pensé à apporter leur eau. Les stands en proposent au prix délirant de 4 $ la petite bouteille. Le dimanche, alors qu'ils ont presque épuisé leur stock, certains commerçants vont monter à 12 $. Et les fontaines gratuites, allez-vous me dire ? Surchargées. Les canalisations en mauvais état, la plupart sont hors d'état de marche. Certaines sont vandalisées par frustration, provoquant des inondations mineures. Rien ne semble aller dans le bon sens. Au début de l'après-midi, Kid Rock va semer les graines du chaos. Il dénonce en direct le prix de l'eau et demande aux jeunes de balancer des vagues de bouteilles en plastique. La zone de la scène principale devient, en un rien de temps, une immense déchetterie et un endroit où règnent colère et ressentiment. À chaque fois qu'une femme monte sur scène, les remarques sexistes pleuvent encore et encore. Rien n'est fait pour enrayer ce cycle. Le Dave Matthews Band, dans une inspiration aussi ridicule que dangereuse, entretient cette atmosphère en réclamant des seins à son public. Les femmes dans la foule sont prisonnières de la fosse aux lions. Si la situation a progressivement dégénéré pendant la journée, c'est le samedi soir que les braises s'allument pour de bon. Peu avant 21h, Limp Bizkit, au firmament de sa carrière, grimpe sur la scène principale. Ébahi, il s'apprête à jouer devant plus de 200 000 personnes. Une marée humaine qui ondule et saute au rythme des riffs et des coups sur la grosse caisse. Le chanteur du groupe, Fred Durst, encourage les saccages et lorsque le service de sécurité lui demande de calmer les participants, il refuse. Il s'exclame même « Ils nous disent de calmer la bande de fils de pute que vous êtes. Moi, je pense qu'Alanis s'en est déjà occupé. Je veux pas te blesser, mais je ne pense pas que vous devriez vous calmer. Cassez des trucs !» Bravo, résultat immédiat. Le concert est arrêté à la suite d'une bousculade qui entraîne des blessés. À la reprise, le groupe ne se calme pas et continue d'échauffer les esprits. La chute d'une tour en métal blesse des dizaines de personnes. L'organisation intervient enfin. C'est la fin définitive du concert. Le groupe suivant leur donne des sueurs froides par avance. Rage Against the Machine. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais bonne surprise de la soirée. Les musiciens ont pris la mesure du problème. Volume abaissé, pas d'interaction avec la foule. Le seul écart a lieu à la fin du set, quand le chanteur met le feu à un drapeau américain. Quittant la scène à 23h20, le groupe laisse la place au superstar de la soirée, Metallica. C'est durant ce concert-là qu'un jeune homme de 24 ans, David DeRosia, est pris d'un malaise dû à la chaleur. Il décédera peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Sur les autres scènes, le chaos règne également. Durant la rave party, le set de Fatboy Slim est également interrompu de manière définitive. Des bruits circulent sur la présence d'un homme armé dans la foule. Des jeunes femmes sont victimes de terribles agressions sexuelles. Summum du chaos. Des festivaliers s'emparent d'un camion mal sécurisé et roulent avec au milieu de la foule. Il faudra de longues minutes pour les évacuer. À ce moment, certains membres de l'organisation, excédés, réclament l'annulation de la dernière journée. Selon eux, il faut limiter les dégâts et rembourser les 225 000 tickets à plus de 150 $. Pas question, répondent les dirigeants. Show must go on.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons le cœur des événements d'un festival hors normes. Cette heure H, c'est celle de Woodstock 1999. La journée et la soirée de samedi sont totalement hors de contrôle. On déplore des agressions, des failles de sécurité, de nombreux arrêts de concerts et beaucoup plus graves. Un mort. Cela aurait dû être le signal d'alarme pour annuler le dernier jour. Il n'en est rien. Le jour se lève sur l'état du New Jersey. Les fontaines publiques vandalisées jaillissent en geysers et créent d'énormes flaques de boue. La chaleur, elle, s'est insidieusement intensifié sous les toiles de tente et sur la tête des festivaliers. Le dimanche matin, les organisateurs de l'événement publient des photos de la veille. Elle montre des femmes seins nus pour la plupart, alors que l'organisation est déjà au courant des agressions sexuelles. Rien de plus grotesque que ce geste. les légendes des clichés. Belle-père ou montrez vos seins sont l'ultime preuve, s'il en fallait encore, de l'inconscience d'une partie des organisateurs. Alors que s'ouvre ce dernier jour, le problème de l'accès à l'eau s'intensifie. Les équipes de sécurité ont perdu une grande part de leur effectif à la suite de la folle soirée de la veille. Pire encore, le mur de la paix installé avant l'événement est victime de la colère des festivaliers dès les premières heures du jour. Les journalistes de MTV sont prévenus que personne ne peut garantir leur sécurité. L'atmosphère est électrique et c'est un euphémisme. Sans réfléchir, les équipes télé quittent les lieux. L'ambiance des concerts de l'après-midi, de l'aveu même des musiciens, est pesante, presque dangereuse, tant la foule est épuisée ou sous tension. Plus de 70 000 festivaliers quittent les lieux dès 14 heures, alors que tout est programmé pour durer jusqu'au bout de la nuit. Elvis Costello, avant même son premier refrain, est victime de jets de bouteilles. Assez intelligent pour ne pas envenimer la situation, le musicien ne réplique pas. À sa suite, sur la scène principale, c'est le groupe Creed qui prend le relais. Ils font le tampon entre les artistes plus calmes de l'après-midi et les Red Hot qui passeront après. Il est 19h30 à leur entrée sur scène. Leur guitariste n'est autre que celui des Doors. Mais la foule, bien trop jeune, ne le reconnaît même pas. Il passe totalement inaperçu. De quoi briser un ego. En parallèle, pendant la conférence de presse finale, totalement lunaire, les organisateurs se félicitent de la réussite de ce week-end. Patience, messieurs. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Retournons sur scène. Creed, élu pire groupe de rock des années 90 par les lecteurs du magazine Rolling Stones, ne parvient pas à déchaîner les passions. C'est pourtant ce concert qui lancera leur carrière. Mais l'échec lié à la présence du guitariste des Doors est immense, d'autant que le groupe de Jim Morrison n'était pas présent en 1969. À 21h35, les Red Hot Chili Peppers montent sur scène et c'est l'embrasement. À partir de là, et jusqu'au lundi matin, les catastrophes, nous l'avons dit, vont s'enchaîner. Les organisateurs se réveilleront avec un goût d'amertume et la sensation d'une gueule de bois de grosse fête bien arrosée. Sans attendre, toute l'équipe est conviée à se réunir et à signer un accord de totale confidentialité sur les événements du week-end. Le bilan n'est une surprise pour personne. Catastrophique. L'eau et la nourriture hors de prix, avec des parts de pizza à $15. Un accès à l'eau potable gratuite des plus incertains. Des écarts nombreux quant aux 250 toilettes mobiles, soit une pour 1000 festivaliers. Ce sont des lieux de désolation. Des excréments se mélangent à la boue. Des festivaliers développent des maladies comme des pieds de tranchée ou des angines de Vincent. Deux pathologies en lien avec la mauvaise hygiène. L'eau sale de la grande douche commune leur monte jusqu'au mollet. La boue est rapidement devenue la reine du festival. Durant tout le week-end, et c'est presque un miracle, seulement 1500 personnes ont été prises en charge par les secours, principalement à cause de la chaleur. Le décès du jeune David Derosia est un scandale à lui tout seul. On l'a supposé en overdose. Il n'en était rien. Trois fois, on le passe au défibrillateur. Son pouls reste scotché à 180 pulsations minute. Coma, puis mort. Attaqué pour négligence médicale, le festival s'en sortira pourtant blanchi. Deux autres morts sont à déplorer. Un homme de 44 ans, suite à une crise cardiaque, et une femme de 28 ans, écrasée par une voiture lors de son départ du festival. Les émeutes, elles aussi, ont été nombreuses. Le mix entre le profil des festivaliers, les sets agressifs comme celui de Limp Bizkit et les mauvaises conditions d'accueil ont agi en détonateur. Mais le principal reproche porté à Woodstock 99 reste assurément le nombre élevé d'agressions sexuelles. Les organisateurs, les journalistes de MTV qui offrent une multitude de plans serrés sur les femmes dénudées, la masculinité toxique de la programmation musicale sont des éléments à l'origine des violences subies par la gente féminine. Un policier sera suspendu après avoir demandé à des festivalières de se déshabiller pour des photos. Une jeune femme est violée durant le concert de Limp Bizkit au milieu des festivaliers. On rapporte un autre cas de viol pendant le concert de Korn le vendredi soir, où une jeune femme se serait faite plaquer au sol par un total de 5 hommes. Ce ne sont pas les seuls. À la fin du week-end, 4 plaintes sont déposées pour agression sexuelle, 4 autres pour viol. Beaucoup d'autres, en réalité, ont été victimes, mais très peu se rendront au commissariat par la suite. L'organisation se couvrira derrière une honteuse sous-estimation des faits du genre « les agressions ultra-minoritaires sont le fait du choix vestimentaire des jeunes femmes ». Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Vous l'aurez compris, Woodstock 99 est un fiasco comme l'histoire des festivals n'en a que peu connu. Partant de la volonté d'offrir à la nouvelle génération le même frisson que celui vécu par leurs parents, les organisateurs ont été coupables de manquements plus graves les uns que les autres. C'est d'ailleurs le dernier Woodstock à ce jour. Le 50e anniversaire prévu en 2019 a été annulé. Trop d'incertitudes quant au budget ou au lieu. Michael Lang était encore aux manettes. Ce légendaire mania s'est éteint en janvier 2022, très peu de temps après le tournage d'un documentaire consacré au week-end noir de 1999. Il y apparaît en interview pour la dernière fois. Quoi qu'on en dise, cet échec retentissant n'a en tout cas pas apporté la paix et l'amour véhiculés par son illustre ancêtre de 1969. Bien au contraire. Malgré ce que les organisateurs ont pu annoncer, l'ombre des légendaires Joe Cocker, Janis Joplin, Jimi Hendrix ou Jefferson Airplane ne planait pas au-dessus des jeunes festivaliers du New Jersey. Non, non, au contraire. 30 ans après, ils auront eu pour principaux compagnons la désolation et le consumérisme. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.